marceau tout seul, c'est correct. Open mic, open mic. Un marceau bien accompagné, c'est tellement mieux.
Toujours bien accompagné, Audrey Pinchot qui est en vacances jusqu'à lundi, mardi prochain. Je sais pas quand est-ce qu'elle va revenir, mais ça devrait être lundi. Je suis accompagné de Pascal CV. Donc, un problème de régler en attire un autre problème.
Oh, câlin!
CV qui est revenu de vacances en pleine forme. Je pense que les auditeurs sont contents de t'avoir. Vous êtes dans l'Open Mic, une émission un peu plus humaine que celle de Marceau le midi. Là, on est carrément des inhumains, on parle d'actualité, on donne de l'opinion, on fait du hard news.
Ça me fait du bien, j'ai l'impression que je vais graviter ailleurs, moi.
Oui,
ben t'entendre être doux, nuancé.
Ça arrivera jamais.
Sympathique.
Ça arrivera jamais. petite activité de zoothérapie, j'ai Leclerc Communication, dans les 30 dernières minutes.
Oui. De zoothérapie?
Et il a dit qu'il a amené son petit bébé singe.
De...
Es-tu cute? C'est l'enfer!
J'avais vraiment peur que tu commences à parler d'un enfant comme pour de la zoothérapie.
Oui.
C'est exactement ce que tu fais, même à la
place. Elle faisait des beaux petits sourires, puis après ça, quand t'arrivais proche, quand Pascal arrivait proche, elle partait à pleurer.
C'est la première fois qu'elle pleurait. Je l'ai comme.
En te voyant?
Mais oui.
Moi, je la comprends tellement.
Mais habituellement, là, elle me saute d'un bras, je peux jouer avec, je la garde tout le long avec moi. Et aujourd'hui, elle voulait rien savoir.
Dans chaque entreprise, il devrait avoir un petit bébé.
Ah, je suis d'accord.
Fais du bien.
Ah, ça sent bon. Puis elle a des petits cheveux, tout petit nez.
Mais je trouve que ça change le mot, tu sais. On est-tu stressé à sa station? Moi, je suis pas très stressé de nature, mais il y a des gens que je vois qui sont régulièrement anxieux puis stressés. Puis dès qu'il y a un bébé qui est autour, qui a le gros sourire, ça enlève tout ça.
T'as tellement raison, ça calme.
Puis le parallèle que je peux faire, c'est que pour l'avoir vu dans des foyers de personnes âgées, des gens qui amènent des petits-enfants, fait que l'arrière-petite-fille qui va se présenter au foyer de personnes âgées, ou encore un bébé chien ou un bébé chats. Sérieux, tout le monde devient gaga.
Oui, ça ramène à quelque chose de très doux et très fondamental. Là, une petite base de l'humain. Toi, qu'est-ce qui te fait craquer de même?
Qu'est-ce qui me fait craquer comme ça?
À part moi, là, c'est sûr. Là.
Toi et ton pyjama aujourd'hui.
C'est pas un pyjama. Pourquoi Denis et toi, vous m'écœurez?
Ouais, je sais pas. Avoir su, on serait venus nous autres aussi en pyjama aujourd'hui.
Franchement, c'est pas un pyjama. Allez voir sur Twitch, ça s'appelle un chandail, soit un T-shirt.
Ouais.
Puis tu pourrais le porter en pyjama, mais... Je vais le porter en habit.
Ouais, la bonne nouvelle qu'on a eu à la station en te voyant habillé de même ce matin, c'est qu'aujourd'hui, tu avais des pantalons, contrairement à des fois où tu les oublies. Mais cela dit, c'est vrai, le stress dans les entreprises est de plus en plus présent. Je sais pas pourquoi.
Je pense que le stress est juste rendu omniprésent dans toutes les sphères de notre vie.
C'est-tu les charges de travail qui ont augmenté? Un employé qui rentre à une place ne peut pas juste avoir une tâche comme dans le temps. Quoi qu'il y en a, mettons, j'ai eu des chums qui travaillaient chez Olimel à Vallée-Jonction en Beauce. Eux autres, ils étaient comme à leur poste, toujours au même poste, à tous les jours, puis ils faisaient leur corps de travail là, puis... ils jasaient, les gars, ils se disaient de la merde un peu, ils s'amusaient, il y avait du
fun.
Mais c'était toujours la même affaire. Est-ce qu'il y avait du stress? Peut-être si on leur donnait des objectifs dans la journée. J'imagine qu'ils faisaient ça chez Olimel, mais je ne les sentais pas super stressés, ces gars-là.
Oui, moi, ça me stresserait, comprends-tu? Une tâche répétitive, je ne peux pas être dans un emploi comme ça. Je ne serais pas bien, je serais même stressée, puis je trouverais qu'il n'y aurait pas tant de défis. Mais il y en a qui...
Des fois, je rêverais de faire le gazon toute la journée.
Ça arrive, il y a des moments où je me dis...
Si c'est mon tracteur, je pense à toi et puis moi.
Mais je pense, honnêtement... que je n'ai jamais vécu une job où mon cerveau est à off, une genre de tâche répétitive.
Ouais.
Parce que j'ai travaillé en restauration très jeune, autant en cuisine qu'en service après. Il y a une job que j'oublie souvent. Puis je pense que c'est mon cerveau qui fait le ménage puis qui a décidé qu'il ne fallait pas que je m'en rappelle trop. Là. Je travaillais dans un gym 100% féminin. Puis comment ça fonctionnait, ce gym-là?
Ça devait être habitué, ouais.
Pas en tout. Ce gym... Et fonctionnait en genre de circuit, OK? C'était avant le CrossFit puis tout, là. Mais là, t'avais tous les appareils en rond. Moi, ma job, c'était de calculer qu'aux minutes, les gens changeaient d'appareil.
OK.
Quand tu fais un chiffre de 6 à 8 heures, là, où tu vois chaque minute, il faut que tu les surveilles, là, je te dirais qu'après ça... T'as bien de la misère à vouloir aller travailler le lendemain. La vie est longue, pas à peu près.
Tu devais être une bonne police.
C'était d'une épouvante.
Ouais.
Voir chaque minute là, s'écouler, là, devoir les surveiller.
Ouais.
Non. Moi, je m'en rends compte.
Chez nous, je pense plus à rien. Quand je tombe un peu l'eau chez nous, là, je pense plus à rien. J'ai fait pas mal de rénovations dans ma vie pour des petits contrats à gauche et à droite. Puis j'avais du plaisir à faire ça. Puis. J'étais pas stressé, mais à la fin de mes journées, j'étais brûlé raide.
Ouais, physiquement.
Au niveau physique.
Mais je pense que ça les gens qui font des jobs physiques, mettons, manuels un peu plus, puis tout, j'aimerais ça qu'ils nous répondent au 88 971 1021. Est-ce que... J'ai-tu dit mon numéro, moi?
Oui.
Hey, je reviens de vacances, c'était un peu. C'était correct?
Elle vient de dire son propre numéro de téléphone.
Ben, j'ai eu vraiment pendant 30 secondes eu peur. J'aimerais ça savoir si ça vous enlève ce stress-là. Tu sais, vu que c'est tellement physique, c'est un peu comme un entraînement. Est-ce que ça réduit votre dose de stress? Parce que dans le reportage Netflix là, des Blue Zones, là,
oui.
T'as-tu déjà écouté ça?
Oui.
Mais c'est ça majoritairement pourquoi les gens sont centenaires et en bonne santé. C'est qu'ils font tout manuellement. C'est des petits endroits où t'as pas comme nous une industrie, t'as pas tout ce qui est fait autour de nous. Ils font leur pain de A à Z, ils font leur nourriture de A à Z en la récoltant, en sciant ça, en travaillant dans les champs, puis en allant, bon, je sais pas moi, travailler dans un autre endroit, mais comme de façon assez partielle. Là. Mais c'est le fait de toujours être actif physiquement qui baisse le stress au quotidien qui fait en sorte que tu as une longévité de vie,
ouais,
plus
puis
que
le temps. Le temps qui s'arrête aussi. Moi, ouais. le mauvais réflexe que j'ai quand j'arrive chez nous, puis je sais que je vais être seul à la maison, je vais tout le temps me chercher un lunch qui est préfabriqué d'avance, puis il me reste juste à mettre ça au micro-ondes. Mais le temps que tu t'arrêtes pour faire de la bouffe, là, même si tu es seul, pendant une demi-heure, 45 minutes, tu penses juste à ça.
C'est méditatif. Fait,
ouais, j'imagine que tu te concentres juste sur une affaire, puis le stress peut partir de ce côté-là. Raison. Mais les jobs manuels, ça dépend. Si tu es entrepreneur, puis des fois, tu as des délais à respecter, ça peut être extrêmement stressant.
Pour moi, ça, c'est cognitif. Je parle vraiment d'un genre de...
En Floride, j'avais des jobs de peinture. Écoute, j'étais payé à l'heure, puis je faisais des...
Mais y a-tu des impôts?
Des clôtures. Je faisais des clôtures.
C'était-tu dans la portion d'une vie où... OK, tu peinturais des clôtures, vas-y.
Je vais des clôtures. Okay. Fait que là, je rentrais sur mon chiffre le matin, la peinture était fournie, le pinceau était fourni. Nous autres, c'était plus des rouleaux dans ce cas-ci. Mais tout était fourni, puis pendant 8 heures, tu faisais ta clôture, ou pendant 10 heures, tu faisais ta clôture.
Ça devait être le fun les deux premières journées.
T'étais brûlé, t'avais des tendinites partout. Mais sérieux, il n'y avait rien de stressant à ça.
Ouais, mais
puis là, en plus,
deux jours
des...
après,
il y avait des propriétaires de ces grosses maisons-là qui étaient partis travailler, puis leur blonde était à la maison. Tu jasais?
Ben non.
Ben oui.
Ben non, mais moi, s'il y a quelqu'un qui peinture ma clôture, je ne vais pas aller accaparer de son temps.
Non, non, mais les filles, je veux dire, les Floridiens, nous autres, c'est en Floride, là, ils prenaient soin de leurs employés. Là. Moi, ils venaient m'offrir de la bière, là. Tu sais, sur l'heure du midi, voulez-vous une petite bière, les
ils
gars?
Ils prenaient soin des employés.
Oui. Des fois, c'était comme, oui! Des fois, c'était comme, oh, on va passer notre tour.
Ah, toi, parce que faut que ça soit parfait de te faire servir une bière, c'est ça?
Exactement.
Pas tout le monde qui a la chance et l'unique chance.
Faut qu'elle soit froide.
Oui, oui, c'est ça.
Exact. Non, pourquoi je vous parle de stress? Parce qu'il y a un article super intéressant dans Le Soleil de ce matin, sous la plume de Daniel Germain, qui parle de l'argent et le stress. Mm-hmm. Énormément de gens en 2024 sont stressés par rapport à l'argent.
Mais moi, j'ai adoré ce texte-là parce que On le sait, là, c'est toujours stagnant,
oui.
Mais on n'en parle pas parce que c'est même stressant de parler du fait que c'est stressant. Ouais. Comprends-tu ce que je veux dire?
J'ai arrêté de stresser le jour où je me suis dit « la retraite, ce n'est pas pour moi ». Je vais continuer quand même à travailler pour puis être rémunéré pour le faire. Mais parce que probablement que le fameux, tu sais, l'argent qu'on envoie au gouvernement, tu sais, je suis dans quarantaine, là, fait que ça fait quoi? Ça fait 20 quelques années que je contribue à mon fameux régime là, où je vais pouvoir peut-être prendre ma retraite puis être pauvre avec un petit chèque. Mais il en restera probablement plus pour nous autres à 65 ans.
OK, toi, c'est ça qui a motivé le fait de changer ta mentalité?
Il y a 4-5 ans, je me suis dit, tu sais quoi? J'aime ça travailler. La plupart du temps, je suis capable de faire des affaires qui ne sont pas stressantes, surtout la rénovation et tout ça. Je suis capable de faire ça. Fait que si la radio un jour ne veut plus de moi, ben je travaillerai dans d'autres choses. Je ferai de la gestion ou je travaillerai manuellement.
Mais si tu tombes malade.
Mais ça m'a enlevé du stress. Là, tu as raison. Si tu tombes malade, ça, c'est une problématique. Il faut que tu sois bien assuré. Mais pour le reste, ça m'a enlevé du stress d'accepter que je ne prendrai pas ma retraite parce que c'est pas le genre de choses qui m'intéresse. Je côtoie plein de chums, tu sais, je te l'ai dit, des gars de l'armée canadienne qui ont fait 20-25 ans de carrière, qui sortent de là à 45 ans.
Qui ont leur pension, mais qui trouvent ça long.
Puis après 6 mois, 1 an, ils retournent à la job. Ils font d'autres choses. Ils vont faire de la sécurité. Ils vont se partir une compagnie de rénovation. Ils s'amusent.
La meilleure façon de tuer un homme, c'est quoi? C'est
de l'empêcher, de l'arrêter de travailler. Cela dit, il y en a qui continuent à faire du bénévolat et tout ça avec leur
tu
régime
peux
de retraite.
Tu peux t'occuper aussi avec tout ce qui est passe-temps extérieur. Ouais. Mais toi, c'était pas une question de te dire « j'aurai pas assez d'argent à
parce
retraite ».
Parce que quand j'étais jeune...
T'as-tu entendu ma question? C'était, pas une... c'était ça?
Oui, vraiment. Mon inquiétude...
Mais t'es pas là-dedans, Yannick.
Ben oui, mon inquiétude avant, quand j'étais... Parce que ça dépend où t'es né aussi. Nous autres, on était... Je suis né dans la nécessité. Ah, là,
c'est
t'sais.
Ça qui fait la différence.
Je suis né dans le gros besoin. Puis, tu sais, heureusement qu'il y avait des organismes comme la Bouchée généreuse qui existaient, parce que je ne sais pas comment on aurait réussi à passer au travers de ça. Mais moi, quand j'avais 20 ans, je me disais, hey, faut que j'en aille en masse à 65 ans.
J'ai toujours eu peur d'en manquer.
Exact. Puis plus on vieillit, plus on acquiert de l'expérience, plus on se dit, tu sais quoi, je suis pas capable de faire ça, moi être capable de faire ça. Je suis pas capable de faire ça, je ferai toujours bien autre chose. Puis à un moment donné, je regardais les chiffres du gouvernement, je regardais les baby boomers qui ont pris une bonne part de cet argent-là. Puis eux autres, quand ils vont partir, il restera probablement plus d'argent pour notre retraite. Fait que j'ai accepté, moi, il y a 3-4 ans, que je n'en prendrai pas de retraite jusqu'à la fin.
Ce qui a diminué mon stress par rapport à l'argent dans les dernières années, c'est une lecture, là, c'était « Père riche, père pauvre », excellent livre à lire, là, j'ai adoré ça. Là, puis ils l'ont traduit en français dans les dernières années, fait qu'il est rendu accessible pour tout le monde. Mais c'est aussi ma vision de l'argent, Yannick. Tu sais, longtemps, tu dis « J'ai une paye, c'est aidé, qui est reliée à mon emploi, qui rentre, mettons, aux 2 semaines, OK? » Fait que là, tu dis « Je vais-tu en avoir assez pour? » Puis là, tu es tout le temps dans le négatif de la chose.
Oui.
Tu es tout le temps dans « Je l'enlève de la chose. » À un moment donné, j'ai switché mon cerveau de bord, puis je me suis dit, comment est-ce que je peux créer une alimentation extérieure à ce salaire-là? Comment est-ce que je peux faire rentrer plus d'argent pour les projets? Fait que c'est bizarre là, comme réflexion, mais quand je me suis mis à changer d'attitude face à l'argent, et non, je veux-tu en avoir assez et comment je peux en avoir plus? C'est là où que mon stress a diminué.
Oui, puis c'est un super de bon livre, là. Je me souviens de l'avoir lu quand il avait sorti. C'est Robert T. Kiyosaki qui a fait ce livre-là. Père riche, père pauvre. Puis il est disponible, il n'est pas très cher. C'est autour de 20-25 $ là, de mémoire, ce livre-là. Est-ce que on est les seuls à ne pas être stressés actuellement, ou est-ce qu'on est les seuls à être stressés actuellement par rapport à l'argent? Bien, il y a un rapport sur la résilience financière et la longévité qui a été publié par la compagnie d'assurance Manuvie. C'est pour les adultes de 42 ans et moins, c'est 63% qui considèrent l'argent comme une source de stress.
Moi, je me demande pourquoi c'est pas plus élevé, là.
Donc, pour les gens de 42 ans et moins, c'est la génération Z et Y. Eux, c'est quand même 6 personnes sur 10 qui sont extrêmement stressées. C'est très élevé, là.
Mais oui, puis sais-tu quoi? J'allais faire une corrélation que finalement, j'ai décidé de scraper dans ma tête. J'allais dire, est-ce que plus tu vieillis, plus tu es stressé? Parce que tu vois, mettons, qu'à un moment donné, tu n'auras plus ta rentrée d'argent, tu ne travailleras plus, puis tu vas juste faire sortir de l'argent de ton compte. Mais en même temps, plus tu vieillis, normalement, plus tu as d'argent si tu as bien fait tes choses. Tu comprends? Fait que ça devrait être moins stressant.
Tu sais quoi? J'étais pas mal plus riche célibataire.
Ah, ça... Ça, je comprends.
J'étais pas mal plus riche célibataire.
Ça, je comprends.
À partir
là.
Du moment où t'as une vie familiale, ben c'est ça. C'est, ça
oui,
vient avec.
Mais c'est des belles dépenses.
Ouais. Mais tu sais, j'essaie de me conforter en disant, ouais, ben tu sais, je mets de l'argent sur l'hypothèque. À un moment donné, cet argent-là va revenir.
Ben oui, pour aller vivre.
Oui, exact. Pour aller vivre dans un condo 3-4 fois le prix.
C'est ça.
Ah ouais, tout est beau. Chez les X, chez les boomers. Fait que je rappelle les chiffres, là. Génération Z et Y, c'est les moins de 42 ans. C'est 6 personnes sur 10 qui sont extrêmement stressés par rapport à leurs finances. Chez les X et les boomers, eux, c'est un peu moins. C'est 53%. Donc, une personne sur deux qui voit leurs finances comme étant une source de stress. Je m'explique ça par l'expérience. Plus tu vieillis, moins tu stresses par rapport à l'argent. Puis, pourquoi? Parce que là, tu vas avoir des jobs ou tu vas avoir un fonds de pension qui va venir avec la job que tu as.
Ou tu as un laisser-aller comme tu nous as mentionné au début de cette intervention-là. Toi, t'es arrivé à un moment où tu as dit, bon, comment je peux utiliser ma petite sagesse, en voulant dire que t'en as pas une grande, mais comment je peux l'utiliser? Et ça a été de te dire, je ne stresserai plus avec ça, ça vaut pas la peine en ce moment, puis je trouverai une solution par la suite.
Je vais continuer à me mettre un peu d'argent de côté, investir par-ci, par-là, mais je ne considérerai pas le maigre 20-25 000 $ que les paliers gouvernementaux vont me laisser dans mon compte en banque à chaque année pour vivre.
Puis là, on parle
Fred
juste
qui dit, moi, j'arrête...
professionnel, Yannick, mais je veux juste faire une parenthèse aussi sur l'argent dans un couple.
Ouais.
Parce que tu as parlé de célibat, puis de l'argent, puis tout.
Moi, ça n'a jamais été une discussion.
Ben, normalement, là, quand tu poses des questions aux gens, là, le premier souci de chicane et de haute, c'est par rapport à l'argent.
Oui, parce qu'il y a des fois, il y a des injustices. Puis on s'en est déjà parlé. J'en avais parlé avec Elodie, j'en avais parlé aussi avec Audrey. T'sais. Moi, j'ai créé des chicanes de couple en jasant d'argent.
Oui, je comprends. C'est une vision qui est différente de beaucoup d'hommes.
À mes yeux, à moi, si tu es avec une femme sans enfant, puis vous achetez une maison, puis vous décidez au départ de vous acheter une maison selon vos moyens, OK? Fait que là, vous êtes deux, puis là, à la caisse, on vous dit « Ah, vous pouvez emprunter pour une maison de 500, 600 000, les affaires vont bien. » Mais la fille fait un salaire qui est le double de son conjoint. À mes yeux, à moi, la fille devrait avoir 66 % de la maison, puis le gars devrait avoir 33 % de la maison. T'es-tu d'accord?
Pas toujours.
Pas toujours. OK. Vas-y, exprime-toi.
Ça dépend l'implication familiale de la personne.
Ouais.
Pour moi, outre le salaire.
Ah, les deux travaillent, il n'y a pas d'enfant, là.
C'est son célibataire.
Oui, il n'y a pas de 50 nuances de Pascal.
Ben non, mais ils sont importantes, ces nuances-là.
C'est deux personnes célibataires,
si on
pas d'enfant.
Si on est là, célibataire, pas d'enfant, ils sont ensemble, ils achètent une maison, je suis d'accord
avec
toi.
Par contre, il y a une manière de procéder. Puis moi, c'est quand j'étais célibataire avec celle qui est devenue la mère de mes gars, c'est on va s'acheter une maison, puis si jamais il arrive quelque chose, ben tu vas être capable de rester dans cette maison-là ou moi, je vais être capable de rester dans cette maison-là. Fait que on a vécu comme ça pendant 15 ans.
Ça a fonctionné.
Puis quand je suis parti, elle a dit, ben moi, j'aimerais garder la maison, puis je voulais pas que mes gars, moi, soient déménagent de là. C'est un super de bel environnement, un petit chalet sur le bord d'un lac. Je veux pas qu'elle bouge là avec mes enfants. Fait que quand elle était prête à acheter la maison, elle a acheté la maison. Mais si j'avais fait le contraire, mettons que c'est moi qui avais eu un super de gros salaire, puis elle, un petit salaire, puis elle est avec les enfants, elle est forcée de quitter cet endroit-là. Je trouvais ça atroce. Là.
C'est là où je te dis les enfants, quand tu dis les 50 nuances de Pascal, ouais. Bien, il y a des enfants dans ce scénario-là. Et là,
après, sont arrivés les problèmes. Ben, pas les problèmes, les enfants. mais c'est ça. Quand elle est tombée enceinte, on avait fait les affaires différemment.
C'est ça.
Là, elle a comme un pourcentage d'argent qui ne rentre plus dans son compte. Moi, je travaille à la planche. Elle est pognée pour rester à la maison, pour couver le bébé.
Elle n'a pas le choix, je veux dire.
Fait que là, faut-tu compenses.
C'est ta vision, mais je pense pas qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont cette vision-là.
Ouais, ben moi, je suis pour le respect des conjoints-conjointes. Là.
Oui.
Mais c'est quand je te dis que j'ai déjà créé des chicanes, là,
c'est avec ce genre
je vais
de
te
choses,
le raconter. Là.
Parce que Yannick donnait la différence, là, on s'entend, à sa conjointe à ce moment-là, à la mère de ses enfants, qui avait une baisse de salaire.
Ouais. Je compensais, en fait. C'est moi qui s'occupais de l'épicerie. Ouais. J'essayais de compenser. Je ne donnais pas en argent. Non, on sait ce que vous faites avec notre argent.
Non!
Vous avez dépensé ça.
On fait ce qu'on veut.
Fait que je compensais de l'autre côté. Mais on est à table. J'étais avec des chums de gars, puis leur conjointe. Puis dans ce cas-ci, excusez-moi, je me trompe de personne, c'était les amis de ma blonde.
Ouais. Je pense qu'on n'a pas besoin d'aller dans les noms non plus.
Oui. Puis là, elle est en train de me parler de comptes conjoints, tout ça. Moi, j'ai jamais embarqué dans des comptes conjoints, sauf pour les paiements de maison, ouais, paiements d'électricité et tout ça. Puis là, elle, c'est un nouveau chum qu'elle avait depuis 2-3 ans. Mais elle reste avec depuis 2-3 ans. Fait que lui, il payait son hypothèque à 100 % et elle payait Hydro-Québec, elle payait l'épicerie, puis elle payait les assurances.
Ah, super!
Puis là, je le regardais, puis là, je dis « Ouais, mais t'es consciente que si ça a fini, toi puis lui, dans 5 ans... »
T'as financé sa maison.
T'as financé sa maison.
Puis il y en a qui vont dire « Oui, mais tu seras à loyer, sinon. »
Ouais, mais c'est ça.
Ou achète-toi quelque chose, achète un chalet.
Fait que lui, il s'enrichit, puis toi, tu le fais vivre.
Pis avec là, des dépenses qui ne reviendront jamais en termes de, d'acquis.
Puis là, je te répète la même affaire que j'ai dit à Audrey. Là. Le gars m'a regardé bien droit dans les yeux, puis il a dit « Tu viens de révéler mon plus grand secret. » Il m'a pas parlé. Il m'a regardé dans les yeux. Il a fait comme de la transmission de connaissances. Tu viens de révéler mon plus grand secret. Il savait très bien qu'il arnaquait sa conjointe. Mais non, c'est là. Okay. Ça a fait une chicane de couple.
Mais ça s'appelle de l'amour.
Je sais pas.
Ah, moi non plus, je le sais pas.
Mais je pense pas. Tu peux pas t'enrichir sur le conjoint ou sur la conjointe puis te sentir bien là-dedans.
Sais-tu où moi, j'ai jamais été capable d'aller, par contre, même avec un couple de 8 ans et demi puis tout ça, ton argent, c'est mon argent. Je suis pas capable, ça. Même si j'avais à sortir avec quelqu'un qui gagnait vraiment plus que moi, pour moi, c'est son argent. Comprends-tu? Probablement qu'avec des enfants, il y a des affaires qui changent, là. Mais deux individus qui sortent ensemble, peu importe la différence de salaire, j'ai jamais été capable d'aller à « ton argent, c'est mon argent ». D'un genre de « on met tout ça en même pot », tu parlais de compte conjoint ou des affaires, je suis pas capable. Tu sais, moi, je m'achète mes affaires, je vis pour mes affaires. Si j'achète un cadeau à quelqu'un, ben c'est un cadeau. Tu comprends ce que je veux dire? Mais il y a pas de « je vais prendre ta carte de crédit pour aller m'habiller, par exemple », ou des trucs comme ça.
Ben ça peut être un cadeau, là.
Ça... On parle de... Je viens de faire la 50 nuances de Pascal par rapport au cadeau.
Moi, j'irais plutôt acheter une carte, mettons, aux galeries de la capitale.
Pourquoi?
Ben parce que si je donne ma carte de crédit, elle va défoncer. Mais si j'achète
une carte
cadeau...
Moi, j'ai déjà eu un
cadeau...
budget là, pour l'extérieur. Puis, cette fin de semaine-là, la personne, elle s'amusait, avait du fun avec tous ses amis. Puis moi, je m'occupais de tout préparer à court pour l'été, OK? Fait que là, elle m'avait dit, est-ce que j'ai un budget pour... Non. Fait que là, la personne, elle m'avait dit oui. Fait qu'elle m'avait donné un budget. Mais si tu me donnes un budget, c'est pas vrai qu'il va revenir une scène. Tu m'as donné un budget. Fait que ça veut dire que je peux prendre ce budget-là pour organiser la cour, tu comprends?
C'est ça.
Puis j'avais ajouté de l'argent de ma part, là. J'avais défoncé même ce budget-là que moi, j'avais payé.
Puis,
mais je comprends ta carte de crédit. C'est, ouais. C'est parce que toi, tu veux une limite.
Puis ce qui est weird dans le sondage, je rappelle que les gens de la génération X puis les boomers, c'est une personne sur deux qui est stressée par rapport à l'argent.
Ouais.
Pascal, ce qui me fesse, c'est que dans l'article du Soleil, on dit que tous les gens qui ont été sondés, c'est des gens qui ont un régime de retraite.
Hmm. C'est
exemple des
fonctionnaires.
Ben oui, mais s'il y a bien des gens qui n'ont pas à stresser avec l'argent, c'est bien les gens qui ont travaillé pour le gouvernement fédéral, le gouvernement du Québec. Ils sortent de leur, ils sortent à leur pension puis ils ont quasiment l'équivalent d'un million de dollars en banque.
C'est pas ça, c'est un peu moins stressé, là.
Oui, bien, eux autres devraient être un peu moins stressés, mais ça dépend du rythme de vie que tu as aussi.
Et du passé, je pense.
Et du passé. Exact. On souligne aussi dans le rapport que le trois quarts des travailleurs traînent des préoccupations financières jusqu'au boulot. On dit que c'est une menace à la productivité des entreprises, et ça, c'est ce que Manuvi mentionne. Chez les X, 43 à 56 ans, un travailleur sur cinq estime que sa situation financière est très bonne ou excellente. Fait que c'est 20 % des travailleurs qui considèrent que leur situation financière est bonne ou excellente. Le double juge plutôt qu'elle est passable ou mauvaise. Donc, 60 % qui considèrent que leur niveau d'endettement est trop élevé. Leur principale inquiétude à 55 %, c'est le coût de la vie. Puis effectivement, le coût de la vie a augmenté comme pas possible. La blonde, là, tu vas me dire, ça veut rien dire, mais elle est arrivée la semaine passée, puis en fin de semaine, c'est-à-dire, puis elle m'a dit, Yann, un sac, 70 $.
Un sac de...
Ouais, mais là,
un sac de quoi?
Ben c'est ça. T'sais, moi, là, je regarde le sac, puis là, je vois qu'est-ce qu'elle a acheté. Puis effectivement, t'sais, c'était un petit sac pour 70 $. Mais t'sais, si t'achètes, mettons, les fromages québécois à 18 $...
T'en as trois. T'en as trois pour 70. Ça s'appelle pas de sac, puis trois choses.
Exact. Mais oui, le coût de la vie a augmenté. Moi, j'essaie de couper en prenant des spéciaux constamment. T'sais, mes enfants m'appellent le cheap de service. Là.
Ah,
ben, mettons qu'ils veulent...
Les aiment, ces enfants-là.
Ouais, ils ont voulu acheter de la pizza au métro. Fait que là, on va au frigidaire. Puis là, je dis, les gars, vous choisissez votre pizza. Là, ils me regardent, ils sont comme super excités.
Fait que bien contente.
Mais des étiquettes rouges. Faut que ce soit écrit en spécial.
Ouais, puis c'était quoi, celle-là qui manque trois?
Fait que ils ont regardé les étiquettes rouges. Puis là, ils ont dit, ah, cette pizza-là nous intéresse, papa. J'ai dit, OK, cool. Mais c'est quoi le rabais dessus? Puis là, c'était un rabais ridicule. C'était genre 50 cents. Là. Des fois, le métro, ah, oui. Ils me font rire. Là, gros rabais, 50 cents. Fait que là, je dis, non, c'est pas un assez gros rabais. Fait que là, ils ont regardé, oh, 3 $ sur la pizza congelée. Fait que là, ils ont pris leur pizza congelée à 3 $ de rabais, puis ils m'ont appelé le cheap.
Ben, c'est là l'avantage.
J'essaie de leur
savoir
montrer.
Cuisiner aussi, là.
Oui, ben oui.
Ça va être 100 fois meilleur et 100 fois moins cher.
On cuisine à la maison. C'est juste que quand on est juste nous trois, notre aliment principal pour la survie,
pizza congelée.
C'est la pizza congelée.
Mais vois-tu, moi, je serais pas capable de manger ça.
Ah, je sais.
Je trouverais ça plate.
Eh oui.
Dépenser pour ça, quand j'ai pas de plaisir culinaire.
C'est ça.
Il y en a une qui est très bonne, la Gaulois, by the way, là, dans le congelé, quand on m'en rabais, garage-toi là-dessus. Là, mais
Moi, c'est la Normandie.
Ouais, j'avoue. Ouais, mais c'est parce que là, ça, on l'aime, là, à
c'est
base,
ça.
On la connaît bien.
Normandie, quand t'as ton en spécial, là, j'en achète 3.
Tu remplis le congélateur. C'est comme ça, c'est bon. Mais il y en a qui c'est vraiment juste cheap. Il y en a qui c'est vraiment du genre, t'as le goût d'une pizza congelée, on va te mettre à moins cher, mais ça coûte à rien. Tant qu'à ça, je mange pas. C'est tout. Mais. Dans ça, Yannick, là.
Oui, madame.
Dans les rabais, l'économie, puis tout ça, ce qui m'a le plus frappé en Europe, là, c'est à quel point c'était pas cher. C'est à quel point, même avec l'euro, là, une fois et demie ta pièce canadienne, là, tu mangeais encore très, très bien pour des prix moindres. Les fruits et légumes, ils ont une façon de gérer les choses pour que l'épicerie là, soit encore accessible. Puis on parle pas juste de Pepsi et de trucs comme ça. Là. Pour des gens, c'est ça l'épicerie dans le panier parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils veulent nourrir leur famille puis c'est ça qui est moins cher. Puis ils voudraient donc bien avoir plein de fruits et légumes, mais elles sont pas capables. Puis c'est pas parce que des mauvais parents. À la base, ils disent au moins mon enfant va avoir quelque chose dans le ventre. Mais la différence avec l'Europe en ce moment que j'ai constaté, c'était ça. Au niveau de l'essence, on n'est vraiment pas chanceux là, du côté de l'Europe. Là. Nous, on est presque chanceux. Puis c'est quasiment pas cher l'essence ici. 2,17 le litre là, canadien là, là-bas. Là. c'est beaucoup d'argent.
Oui, exact. Mais, quelqu'un qui me dit, est-ce que vous êtes pour ou contre les comptes conjoints? Moi, j'ai déjà répondu à cette question-là. Les comptes conjoints pour les dépenses comme l'hypothèque. Tu sais, mettons, c'est l'hypothèque est à 50-50 des deux bords. Compte conjoint pour l'hypothèque, hydro, les assurances de maison, les taxes scolaires, les taxes municipales. Je suis pour ça.
L'épicerie, le mets-tu là-dedans?
Mais j'ai l'épicerie, oui. Oui, oui.
OK. Avec ta famille?
Oui, bien, en fait, on n'a pas de compte conjoint pour ça, mais on split tout le temps la facture, tout dépendant de qui est là la semaine.
OK.
Fait qu'on c'est ça, on s'organise. Puis nous autres, c'est assez facile, les calculs. Là.
C'est moi, là, mon ex de 8 ans et demi, là, c'était un footballeur baraqué grand. Là. Il m'a dit une affaire, l'épicerie, elle n'était pas 50-50.
Ben non, mais c'est sûr.
Je commençais en plus à travailler dans le début vingtaine. Là.
C'est sûr. Ouh. Mais pour le reste, on dirait que je suis devenu un peu... tu vas me trouver le mot de... J'allais
Radin.
Dire aigri. Là.
Ah,
mais
okay.
J'ai tellement d'expériences négatives de gars autour de moi qui se sont fait vider leur compte conjoint. Là. Séparation, parce que le gars, il a eu idée de mettre son pénis dans le corps d'une autre femme, alors que sa blonde n'était pas au courant.
La ça, fille dans a le fond, dit. C'est une situation que tu résumes. Moi, je pourrais
La fille a dit OK, ouais. Tu m'as trompé, mon salaud. Mm-hmm. Ben, tu peux être sûr que tu vas souffrir au niveau financier. J'en ai énormément, tu sais, accumulé. En 20 ans, là, des histoires comme ça, Pascal, là, ou juste des chicanes de couple qui se terminent par une séparation, puis elle, elle décide d'aller magasiner.
Parce que là, j'appliquerais plusieurs nuances à bien des choses. Mais...
Ouais, j'ai tout le temps été au fait de ces idées-là. Je me suis dit, hey, ça, un jour, ça m'arrive. Mettons que je rencontre une fille, on part un compte conjoint. Ton salaire, mon salaire, on met ça là-dedans. Puis, je sais pas, moi, je dis quelque chose, ça y plaît pas, puis elle me quitte. Puis là, moi, je suis en peine d'amour, puis tout d'un coup, je regarde mon compte accédé, puis il est rendu à zéro.
T'es en peine de fond aussi.
En peine de fond. Ouais.
Mais ça, c'est dans les deux sens. Là. Tu donnais ton exemple du gars aussi qui s'est fait une hypothèque sur le dos de son ex-conjointe.
Oui.
Là. Mais il y a de quoi là-dedans. Moi, je trouve ça difficile parce que c'est une situation pour situation. Le prorata du salaire, moi, ça a souvent été ça. Comment est-ce que j'organisais mes choses? Parce qu'il y a certaines choses que je préfère payer pour, puis des fois, c'est pas la même chose pour ton conjoint. Tu sais, côté alimentaire, je me restreins moins de ce côté-là. J'ai pas une voiture de l'année, puis je ne vais pas aller dépenser, mettons, dans une location pour avoir un char plus haut ou plus ci, plus ça. Ça dépend aussi de ce que tu souhaites dans la vie. Fait que si tu as un compte conjoint, mais que là, ce qui t'attire, toi, financièrement, dans tes dépenses, ce n'est pas la même chose que ton copain, ça se peut que tu aies un petit peu des accrochages là-dessus. Si toi, Yannick, mettons, on sort ensemble, puis toi, tu as un...
Non.
Mais
Julie dit, ben moi, c'est mon ex qui a vidé mon compte conjoint.
Ben, c'est ça. Je savais que ça allait arriver.
Donne-moi
aussi.
Son nom, Julie.
Mais mettons qu'on sort ensemble et tu as un salaire 4 fois plus que le mien, OK? Toi, ça se peut que tu veux une grosse baraque parce que tu as la possibilité de te l'acheter, mais que moi, je puisse pas. Ben, compte conjoint, faut que tu vois au prorata aussi du salaire, mais en même temps...
Ça revient à ce qu'on a dit au début.
Ouais. Mais est-ce que toi, tu diminuerais ta fantaisie d'une grosse baraque? Parce que, mettons, moi, je pourrais pas y accéder.
Non, mais tu aurais un certain pourcentage de la maison. Pareil, il faut que tu t'enrichisses toi aussi de ton côté. Si la maison prend de la valeur avec le temps...
On a la même vision, mais il y a des gens pour qui c'est pas ça.
Julie, elle m'a pas donné le nom du gars. C'est sûr que Pascal prendra jamais parti contre une congénère féminine.
Ben là, Julie, elle fait juste dire que...
Les comptes conjoints.
Elle s'est fait vider par son ex.
Martin dit, les comptes conjoints, c'est effectivement dans les deux sens. C'est surtout une question de confiance. Si t'as pas confiance en ton conjoint, ta conjointe, qu'est-ce que tu fais avec?
Ouais, mais il y en a que c'est super pour
Martin,
ça.
Martin, tu poses trop de questions, tu vas nous mettre dans le trouble.
Bye.
Bye.
Raccroche.
Non, toi, raccroche. Les trois accords, ouvre tes yeux sur les zones de boulevard. Ouvre tes yeux, Simon. Oui, spécialement Simon. Si vous avez des choses à nous dire, vous êtes dans l'open mic. La parole est à vous, les amis. Tout le temps, il se passe quoi que ce soit sur la route. Vous êtes nos yeux, nos oreilles. C'est le numéro de téléphone à Pascal, par texto. 418-971-1021. 418-971-1021. Oh boy! Une belle rencontre entre Pascal CV et notre invité d'aujourd'hui. Elle est déjà très, très aimée sur les ondes de boulevard. C'est Paul Lévesque, spécialiste du comportement humain, éducatrice spécialisée. Paul, Pascal, Pascal, Paul.
Ah, oh, santé!
Ouais. Je pense qu'il y a déjà une amitié qui vient de naître.
Et moi, je vais demander à ce qu'il y ait sincèrement soit plus de rencontres avec Paul ou encore qu'on l'amène dans Mars au midi.
Ah non, mais on va la réserver à Audrey pour l'open mic.
Qu'il l'adore aussi.
Qu'il l'adore aussi. Puis après ça, ben tu sais quoi, quand Audrey sera plus capable, d'endurer Paul, du haut de ses 4 étroits, ben, elle viendra avec nous.
J'insiste sur le 10. Parce qu'à 4 et 8 et moins, on considère petite personne. Moi, je suis encore considérée comme une personne.
Mais t'es la première personne de l'histoire de Leclerc Communication où pour la faire monter sur notre tabouret s'asseoir, on met un petit banc.
Bon. Quand j'arrive, je dois vous dire hors d'onde, Pascal, tu as été témoin.
Ouais.
Il est gentil, mielleux, adorable.
Ouais.
Puis après ça, elle vlant dans les dents. C'est comme pour m'apâter.
Je suis tellement contente qu'on vive la même chose. Maintenant, je partage quelque chose avec quelqu'un par rapport à Yannick.
Oui. Comment t'as passé ta fin de semaine, toi? T'avais des conférences encore?
Ça roule ma poule.
Oui.
Ouais. Quand les gens me disent, puis Paul, vas-tu avoir des accalmies? Là, je réalise qu'il n'y en a pas.
Ouais. Es-tu capable de t'arrêter? Plus
question.
Qu'avant, peut-être.
Ben, tu sais, des fois, les gens me disent, Paul, c'est quoi ta passion? Moi, je vis passionnément. Point.
Ouais.
Fait que tout ce que je fais, je le fais avec passion. Je ne sais pas comment le faire autrement. Fait que moi, c'est décloisonné. Ma vie est sur 6 jours. C'est-à-dire, je n'ai pas la semaine puis le week-end.
Ouais.
Tu comprends? Fait que, ben, regarde, je vais te donner un exemple. En 48 heures, ben, j'ai 3 conférences, j'ai de la consultation, je suis à la radio. J'en ai 2 par jour. Mais je réussis à aller dîner avec ma maman après la radio.
Okay.
Aujourd'hui.
Fait que t'es très occupée.
Occupée, mais je suis capable d'aérer mon horaire avec des choses que je devrais dire non si j'étais en structure, peut-être, parce que c'est moi qui fais mon horaire. Là. Fait que
Mais t'étouffes pas à un moment donné?
Non,
ça vient pas prenant d'avoir toujours quelque chose de cédulé à une heure suite à laquelle il y a quelque chose d'autre, qu'il y a quelque chose d'autre, puis là, t'arrives à la maison, puis...
Ben j'ai envie de dire, comme c'est moi qui fais mon horaire, je fais bien ça.
Mmh. Ouais, puis t'es responsable, en plus, de ton horaire. C'est tanné un peu de ta fin de la semaine.
J'en fais moins, tu sais.
Exact.
C'est ça. Fait que... Puis l'horaire, je l'avais... Ben c'est sûr que les conférences, c'est un an à l'avance, mais pour la consultation, pour la radio, tout ouais. ça, c'est un petit peu plus au fur et à mesure. Fait que je suis capable de visionner que, OK, bon, dans cette période-là, tu sais, comme là, j'ai jamais fait ça, je me suis gardée 2 semaines à Noël.
Cool! Mais tu le mérites, là.
Vraie folle.
Mais ouais. C'est-tu stressant, justement, parce que t'as jamais arrêté?
De non, dire, là, ça va j'arrête être quand même. Tu sais, je pars, je me paye la traite, je vais en vacances, je vais... Tu sais, je veux dire... L'idée, c'est je place les choses en fonction de mes besoins. Mais suis-je très, très? Oui. Trop, trop? Peut-être pas. À vue des autres, peut-être. Puis honnêtement, j'ai accepté qui j'étais. Tu sais, j'ai longtemps voulu dire, garde, tranquillise, etc.
Ouais.
Quand la madame de la banque m'a appelée il y a quelques semaines pour me dire, bon, Madame Paul, on voit dans nos dossiers que vous pourriez peut-être... préparer une pré-retraite.
Hi, ça, c'est
elle
rude.
Elle m'a dit ça au téléphone. Bon, là, j'ai dit, êtes-vous en train de me dire que je suis vieille, quelque mm-hmm. chose? Puis là, elle savait pas trop quoi répondre. Puis là, bon, là, j'ai dit, prenez votre ordi puis écrivez ça, là. Ne plus jamais rappeler Paul Lévesque. Elle ne sera jamais à la retraite. Elle vit passionnément. Elle dit, ouais. Sur quel cas j'écris ça? Là, je sais pas. Organisez-vous. Tu sais, Ma vie est organisée autour ouais. de passion. Fait que ça, c'est sûr que des fois, le petit corps aurait envie de s'arrêter, mais à ce moment-là, je me garde quelques jours, puis je m'arrête. Mais des fois, c'est accepter qui on est, c'est une façon de se dégager aussi. Hein?
Mm. Oui, exact. Puis quand on était jeune, on agissait beaucoup par mimétisme, parmi nos pères. T'sais. On regardait nos amis, puis on se disait, OK, lui, il se dirige vers là, là, là. Moi aussi, peut-être que j'aimerais ça, moi aussi, la construction. Mais plus on vieillit, plus on se dit, attends un peu, là, de regarder comment ça se passe les autres. J'ai ma vie à moi, j'ai mon chemin à moi. Puis tu sais, on en parlait tantôt avec Pascal. Je pense pas que tu étais à l'écoute, puisque tu étais dans la salle d'attente, puis moi, je retardais encore. Mais on parlait de la retraite, du stress aussi, et tout ça. T'sais. Puis on dirait que moi, j'ai commencé à arrêter de stressé à partir du moment où je me suis dit, j'en prendrai pas de retraite.
Bon.
J'en prendrai jamais de retraite. Ce qui fait en sorte que je vais toujours travailler. Pascal a dit, ouais, mais tu sais, la santé et tout ça, ben, à ce moment-là, il y aura les assurances qui prendra en charge si j'ai des problèmes de santé. Mais j'ai pris, moi, là, 4 ans, j'ai pris la décision que je ne prendrai jamais ma retraite. Je vais-tu ralentir, Paul? Bien sûr.
Ben, peut-être que tu feras plus de radio, tu vas trouver une autre passion.
Ben, oui.
Ben c'est ça.
Autrement. Mais ça, c'est intéressant.
Je vais aller juste plus lentement.
Pas officiellement le nommer, mettons.
Oui, mais trouver aussi... J'entends beaucoup de passion. C'est sûr que ça occupe d'une autre manière que d'être dans un métier qui ne nous passionne pas et
oui.
qui est plutôt à charge,
oui.
puis pour avoir la paye. Mais je trouve ça intéressant d'entendre ça parce que moi, j'ai du gaz d'avion, normalement, dans la vie. Yannick, il dit, bon, t'as jamais de trou dans ton horaire. Encore, tu sais, t'es tout le temps à une trentaine de minutes d'une autre affaire. Puis je me suis souvent sentie mal de ça. Puis je me suis souvent sentie comme une personne un peu extraterrestre parce que j'aime ça, ces choses-là. J'aime ça, un horaire rempli. C'est pas parce que j'ai un FOMO, une peur de manquer quelque chose dans ma vie. C'est que j'aime vivre. J'aime le faire intensément. Mais j'ai aussi mes moments où j'ai 2 pieds sur le pouf. Puis ça, les gens le voient moins. Mais je me fais souvent dire. Puis encore hier... Mais on te regarde aller, puis à un moment donné, ben tu vas mourir. Mais tu vas mourir dans un an, tu vas pas mourir. Puis je me sentais mal. C'est comme si je m'obligeais à m'arrêter quand j'avais pas le goût. Parce que souvent, on a la pression contraire d'en faire plus. On nous demande, fais-en plus, fais-en plus, fais-en plus. Et moi, c'est plutôt, quand est-ce que je m'arrête? Je me mets à presque stresser quand j'arrête parce que j'ai l'impression que je perds ma vie.
En tout cas, tu as le spécimen beaucoup d'années plus tard que ça donne. Tu peux te projeter dans l'avenir. La seule chose, c'est que si tu t'aperçois que cette action répétée-là ou ce mouvement-là t'oblige à prendre des trucs collatéraux pour le supporter. Oh, un petit verre de vin de plus à chaque jour parce que tu es trop dans le stress ou dans l'anxiété ou dans l'action.
Que tu ne sais pas t'arrêter. Puis
Oui, tu as déposé parce que tu sais, se déposer, ça n'a pas besoin d'être si long. Tu sais, quand je prends un bain puis je rajoute de l'eau chaude 20 fois, ce qu'il ne faut jamais faire, mais je le fais, je me dépose, là, tu sais. Je me mets de la musique, je pense à rien. Quand je vais marcher avec Henri, qui est mon gros golden, je pense à rien. J'ai pas de musique, j'amène pas de monde, pas de téléphone, j'amène à rien. Je pense que c'est l'art de trouver des moments pour se déposer. Se déposer, ça veut dire « achalez-moi pas ». Tu sais, quand moi je dis, là, il n'y a plus de son, plus de lumière, c'est « viens même pas me demander où est-ce qu'il y a le ciel, là. Cette prochaine demi-heure-là est à moi. » Puis je pense que c'est peut-être là qu'il faut entremêler les moments de... où on se dépose.
Y a-t-il un mode d'emploi? Supposons qu'on écoute Paul Lévesque à la radio, puis on se dit, ouais, moi aussi, je regarde comment ça va, puis j'aimerais ça changer les choses. Là. Y a-t-il un mode d'emploi, tu sais, pour changer les choses?
Toute notre vie, on sera confronté à évoluer et à changer. D'ailleurs, le physique même nous l'impose. Là. Je veux dire, tu ressembles plus à ce que tu avais. Tu n'avais pas de petite barbe quand tu avais 2 ans. Là. Je veux dire, la vie fait qu'on est constamment en changement.
La blonde dit que j'embellis.
Vrai?
Depuis qu'elle te connaît? En seulement 2 ans?
Ben oui. 3 ans.
Okay. Oui.
T'as embelli en 3 ans?
C'est ce qu'elle a dit.
Intérieurement ou physiquement?
Faut la croire ou ben c'est pour augmenter comme...
C'est peut-être...
Ma confiance en moi.
C'est peut-être une façon opportuniste d'avoir un retour de quelque chose. Mais là...
Voyons qu'une femme ferait ça.
Ou ça y a pris 3 ans de voir ton intérieur qui embellit ton extérieur.
Ah, peut-être! Ah! C'est vrai que vous êtes de même, vous autres. Vous voyez,
ou t'as mis d'autres choses que des cotons ouatés noirs une bonne journée, puis ça l'a ébloui.
Hier, c'est vrai, c'est-tu hier que
t'as dit ça? Ma maison, je suis toujours en bobette.
Ah ben, OK. Chose qu'on n'a pas accès, fait qu'on peut pas aller plus loin de la conversation.
Je suis pas déçu de ça, moi, je n'avais pas cet accès-là.
Oui, des fois, il y a des images qui restent, moi, je suis plus capable de s'en débarrasser. Ah, ça fait du bien d'avoir un retour. Bon, comment faire pour changer les choses?
Oui, madame.
La première chose, c'est de se demander qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux plus. Qu'est-ce que je veux changer et pourquoi? On appelle ça la signifiance. Ouais.
Ça, on écrit tout ça sur une feuille?
Écoute, il y a tellement de façons de le faire. Feuille, ordi, discuter. Des fois, là, lors d'une discussion, un bon souper, tu reviens chez vous, puis il me semble qu'il y a eu comme un déclic de quelque chose. Tu n'es plus jamais la même personne. On dirait que tout d'un coup, tu as fait comme allusion à des parties de ta vie où tu disais « Pourquoi? Pourquoi? » Pourquoi je ne peux pas changer ça? Pourquoi je supporte ceci? Parce que le changement, c'est pour aller sur ton X. Moi, j'appelle ça notre X. Aller le plus proche possible de ce qui nous rend heureux. Ça a l'air cucu le bonheur. T'sais. La première affaire que tu veux dans la vie, c'est être heureux. Puis la signifiance, c'est savoir pourquoi je fais quelque chose. Et tu as raison, Yannick, ça peut être par écrit. Ça peut... Une fois de temps en temps, il faut faire des bilans et se demander... Ça a-tu du sens, ma vie? Ça a-tu du sens, le travail? Ça a-tu du sens, mon couple? Ça a-tu du sens, la façon dont je vis les choses?
Ou je roule sur le pilote automatique?
Est-ce que je roule sur le pilote automatique?
Ça a pris 5 ans avant que je m'en rende compte, donc j'ai perdu 5 ans. Dans une situation personnelle, relationnelle, professionnelle, peu importe.
Ben, tu l'as flushé aussi.
Ben, écoute, ça, j'entends ça souvent en consultation. Là, ici, il y a un petit insight, probablement. Là. Bon, on doit parler d'amour. Donc, l'idée là-dedans, c'est de se dire, est-ce que je conserve une vision rétroviseur? Rétroviseur, c'est tout le temps regarder en arrière. J'aurais donc pas dû. Pourquoi j'ai fait ça? Comment ça se fait? Je l'ai fait. Si tu le regardes pour comprendre, c'est pas pire. Mais moi, je crois que tout ce qu'on vit doit être vécu. Est-ce que j'aurais dû ouvrir les yeux avant sur certaines situations? Peut-être. Est-ce que j'avais ce qu'il faut pour aller de l'avant? Pas toujours. Des fois, là, il y a des gens qui me consultent parce qu'ils sont rendus à une étape de séparation dans leur tête, mais pas tant. Oui, mais non. Fait que des fois, je leur dis, peut-être vous avez encore besoin de faire un petit bout de chemin pour aller à un endroit où il y aura une plus grande certitude. La signifiance, c'est savoir pourquoi je fais quelque chose, sinon je deviens insignifiant. Si tu ne sais pas pourquoi tu fais quelque chose, il y a peu de chances que tu aies envie de changer les choses. Puis des fois, ton narratif, tu sais, le narratif, c'est nous autres qui est en train de commenter notre histoire.
Ouais.
Tu sais, on est beaucoup dans le sabotage. Ah, oh, mais je suis trop vieux. Ah, oh, mais ça va donner quoi? Ah, oh, mais je l'ai essayé, puis ça n'a rien donné. Donc, cet auto-sabotage-là nous amène à perdre de vue qu'est-ce que je veux dans la vie, puis c'est quoi le sens de ma vie? Je m'en vais où?
Ouais. Si les auditeurs veulent participer à la discussion, 88-971-1021, 88-971-1021, on est avec Paul Lévesque, spécialiste du comportement humain, éducatrice spécialisée. Quelques questions à te poser. La première qui me vient à l'esprit, est-ce que ça se peut qu'il y ait des êtres humains qui sont dans la résilience puis qui se disent, garde, jamais été heureux, je le serai jamais, autant mieux l'accepter?
Moi, je pense pas que c'est de la résilience.
Ouais. Je pense que c'est un découragement.
C'est un manque de confiance en eux?
C'est de la victimite, je pense. Regarde, je suis née pour un petit pain. Tu sais, le genre...
Ça a toujours été ça.
Ça a toujours été ça. Je suis née pour un petit pain. Souvent, on manque de confiance à ce moment-là. On manque d'estime.
C'est de la paresse. Pour moi, il y a de la paresse là-dedans aussi.
Puis il y a de la dépendance aussi. Une dépendance qui est extrêmement triste. Ça peut être une dépendance affective. Oui, ça peut être une dépendance financière. Et celle-là, c'est...
La plus cruelle.
C'est être extrêmement cruel. T'es avec tes enfants, t'es seul. Mettons, on prend le cas typique là, d'une femme qui a trois enfants.
Une maman solo, mettons.
Elle a une maison avec son conjoint. Puis elle sait très bien que, bon, lui, c'est lui qui avait décidé qu'il travaillait. Elle, c'était elle qui avait décidé avec son conjoint qu'elle restait à la maison. Si elle quitte, elle est dans le trouble. Elle va rester avec le moté, il peut être toxique à son égard. Là. C'est triste, là, cette résilience.
Il y a celle-là financière, mais moi, dans mon entourage, j'ai quelqu'un qui a aussi ce désir d'être à un endroit parce qu'elle s'est toujours dit, mettons, à 25 ans, je vais avoir un enfant. À 30 ans, je vais avoir ma maison avec un foyer. À 35, je vais avoir... Et c'est toute une série de mauvaises décisions. Oui, fait que finalement... Son enfant est extraordinaire, elle l'adore, elle est vraiment contente de l'avoir, mais elle l'a eu avec un père que normalement elle l'aurait pas eu, mais c'est parce qu'elle s'était dit à 25 j'ai un enfant. Fait qu'aussi l'envie d'avoir et de parcourir un chemin pour arriver à une destination, coûte que coûte, t'amène pas le bonheur non plus.
C'est vrai qu'une succession de décisions peut nous amener dans un cul-de-sac. Puis quand on reprend la pyramide de Maslow, là, tu sais, la pyramide de Maslow des besoins, la première étape, parce que comme des marches qu'il faut monter, la première étape, c'est les besoins de base. Puis la deuxième, c'est la sécurité avant même l'amour et l'affection. Mm-hmm. Donc, beaucoup de gens, puis là, on parle du couple, mais ça pourrait être n'importe quel changement, le travail, peu importe. Beaucoup de gens ne feront pas de changement parce qu'ils restent bloqués à la marche numéro 2.
La sécurité.
Je m'en fous de ne pas aimer ma job, je m'en fous de ne plus aimer mon chum, mais c'est pas ce qui va primer. Je reste collée sur la marche numéro 2 qui est l'insécurité. J'ai besoin de sécurité. Moi, je l'entends tellement souvent. Écoute, une sécurité, les enfants sont bien, monétairement, comment je vais m'organiser, juste de visualiser que je serai ailleurs. Même que ce soit le travail, une amitié, peu importe, on aime mieux rester dans le connu. Puisque, un, l'inconnu est insécurisant. Il y a des gens qui me disent, je sais que changer les choses serait tellement mieux dans ma vie, mais la zone de confort, je la connais. Elle n'est pas confortable, mais je la connais. Fait que c'est pas simple. Ce qu'on se dit aujourd'hui, là, c'est pas une formule magique.
Ouais, c'est dur à ingérer, par exemple, de dire, ma sécurité est primordiale par rapport à... Puis je suis conscient ou je suis consciente que si je change les choses, je vais être plus heureux ou plus heureuse. Mais je reste sur cette marche-là.
Oui.
Hey, je trouve ça difficile à ingérer.
Ouais, puis de l'autre côté, on a plein d'exemples de femmes et d'hommes d'affaires qui se sont pété à gueule 5-6 fois en partant des entreprises différentes. Puis la 7e fois,
ça a fonctionné.
Puis aujourd'hui, ils ont une belle entreprise, puis ils se plaisent dans leur entreprise.
Mais les gens se rappellent juste de la dernière, par exemple. Ouais, c'est ça. Qu'après ça, tu lui demandes son parcours, tu te rends compte que c'était pas aussi facile que ça. Puis toi, c'est ce qui t'a découragé d'y passer. Mais tu te dis, ben lui, il l'a eu facile.
Ouais.
Mais non.
Mais toutes les débarques que cette personne-là a pris. Puis c'est
la plupart du temps, c'est ça.
Ouais. C'est des gens qui sont capables de prendre des risques. Là. Tu sais, je parlais avec Luc Poirier la semaine dernière. 3 ou 4 fois, il a tout risqué l'argent qu'il avait dans son compte en banque. Là. Luc Poirier, c'est un des hommes les plus riches au Québec actuellement. Il a à peu près sa valeur estimée...
Ah, c'est celui qui était à OD ou quelque chose quand même.
Okay. Sa valeur estimée aujourd'hui est à peu près autour de 800 millions de dollars, puis il n'y a pas d'employé. Tu sais, c'est quelqu'un qui... C'est un self-made man, puis il fait ses affaires, il crée ses développements et tout ça. Puis 3-4 fois, il a tout risqué, puis il a de ça 4-5 ans, me le raconte. Compté dans le podcast que j'ai fait avec lui. Il y a de ça 4-5 ans, il est dans la voiture avec sa conjointe. On s'entend qu'il y avait un train de vie luxueux. Et la caisse dit, là, M. Poirier, il va falloir que vous nous aidiez parce qu'il y a plein de choses qui rebondissent. Là. Vous n'êtes plus capable de payer vos affaires. C'est qu'il attendait un montant d'argent qui était supposé d'arriver. Puis finalement, les affaires retardaient. Donc, il n'était pas capable d'avoir un cash flow nécessaire pour payer ses dépenses quotidiennes. Puis aujourd'hui, il vaut 4-5 ans. Puis aujourd'hui, il vaut 800 millions de dollars. Mais là, 4-5 ans, il était cassé. Là. Si ça passait pas, ce qu'il voulait faire, le deal qu'il voulait faire, il était cassé, c'était terminé.
Il a pris les risques.
Il a pris les risques nécessaires. C'est sûr que sa conjointe n'a pas dû y donner ben de l'amour cette journée-là. Là.
On ne le sait pas.
Parce qu'elle n'était pas au courant. Ouais,
ah, elle
n'était
pas au courant, OK.
Ouais, il a comme oublié de dire qu'il avait tout misé sur une affaire.
Ben, je pense qu'on n'a pas tous la capacité de vivre le même niveau de risque. Il y a des gens qui sont capables de vivre à niveau de risque inflammable.
Mais ces gens-là peuvent nous inspirer, par exemple.
Écoute...
À une échelle peut-être différente, mais ils peuvent nous inspirer.
L'inspiration, c'est pas copier, c'est s'inspirer. Tu comprends?
T'es pas heureux avec ta conjointe, t'es pas heureux avec ton conjoint. Tu t'en vas de là, tu te ramasses dans un appartement, pas de meubles. Puis ta première achat, c'est un matelas.
Que tu mets au sol.
Au sol, après ça, c'est une couverte, après ça, c'est un oreiller.
Mais t'es peut-être plus heureux.
Mais 8-9 mois plus tard, c'est déjà une étape de ta vie dont t'es fier. Ouais. T'as passé au travers.
Exact. Puis normalement, t'es plus là, là. T'es plus dans le matelas au sol, là. Non, t'es de base de lit, là.
Quoique, j'ai été très longtemps étudiant.
Il y a un âge pour chaque chose.
C'est ça. J'ai pas fait mes enfants à terre.
Mais moi, je m'explique mal la personne qui est capable d'être dans la stagnation par rapport à ça. De dire, je vais préférer mourir, mais avoir eu cette sécurité-là versus... Mm. Mais toujours être en combat personnel envers quelque chose qu'il veut atteindre. T'sais, il y a une affaire que moi, quelqu'un me dit, ça résonne encore, c'est une personne que j'aime profondément, qui me dit, c'est quoi tes priorités? Hey, j'étais jeune, j'avais 24. C'est quoi tes priorités dans la vie? Là, tu réfléchis, tu penses. Il dit, parfait, à chaque jour, quel geste tu poses pour mettre ces choses-là en priorité? Souvent, les gens vont dire la famille et les enfants. Mais dans le train de vie, le quotidien, avec le travail, ramasser des sous, nanana, ben le 20 minutes, le 1 heure, peu importe le temps de qualité que ces enfants, des fois, ils tombent. Puis tu te rends compte que tes priorités, ben tes priorités, c'est pas.
Oui.
Souvent, je me le remémore. Puis l'exercice de mettre sur une feuille... Mon voyage, Yannick, ça a été que ça, tu sais. T'aurais haï ce voyage-là, toi. Haï ce voyage-là.
Moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est que j'étais de quel bord de la colonne?
À jeter ou à garder?
À gauche ou à droite? Il y a plein de commentaires qui rentrent.
Quand tu parles d'inspiration, juste au cas où je l'oublie, allez sur Google.
Ouais.
Les nuls qui ont réussi. Vous tapez ça. Il y a plein d'histoires, tu sais. Ça parle de Walt Disney qui a eu 326 refus de la banque parce qu'il trouvait que son projet était cucu. Je donne juste un exemple.
326
refus à la banque.
Là, c'est de l'acharnement, ça.
Ça me fait penser à mon secondaire avec les filles, finalement.
Ah. Ouais, mais regarde, là. Ta blonde te trouve beau de plus en plus à chaque jour.
Mais il y en a qui disent que c'est parce que la vue de sa blonde a baissé en 3 ans.
Ça peut être intéressant.
Ah, les salauds d'auditeurs qui ont dit ça. Hey, commentaire qui rentre, Paul, au 418-971-1021. Salut la gang, on a deux enfants. Mon plus jeune est TSA et ma vie a pris un 360. J'ai dû quitter mon emploi et je suis maintenant devenu une personne aidante. Je me suis perdu là-dedans. Je suis en mode solution depuis 4 ans. Je vois une psycho-éducatrice et un psychiatre et je ne me reconnais plus. Mon thérapeute m'a demandé la question qui tue. Là, je vais changer son nom. Jade, c'est qui? Elle aime quoi? Ça fait 5 semaines que je me pose cette question-là. Jade, je suis qui? J'aime quoi? Et j'arrive toujours pas à dire qui je suis. Et je vais vous dire, c'est vraiment dur de réaliser ça.
Il y a des situations dans la vie qu'on n'a pas choisies. Devenir parent, puis on tombe en plein dans ma... C'est éducatrice spécialisée, moi. Ça tombe en plein dans mes... Moi, j'ai travaillé beaucoup au début de carrière avec les enfants multi-handicapés. Donc, moi, j'étais à l'hôpital et j'ai aidé les parents qui venaient d'avoir la nouvelle que leur enfant était atypique. On devient un rôle dominant qui s'appelle prendre soin d'eux, un père aidant, et on oublie tous les autres chapeaux qu'on a jusqu'au jour où on réalise qu'on crève de faim.
C'est encore plus que d'avoir des enfants à base quand on dit est-ce qu'on est encore une femme, une amante, une conjointe, une amie, et tout ça. Mais non, on est juste parents, là, c'est pire. Là.
Oui, tu es en train de focusser sur un élément que tu n'avais pas choisi, mais qui prend toute la place. Puis là, c'est un spectre de je pense, un TSA. Oui, puis tu sais, c'est tellement large. Il y en a qui sont fonctionnels, puis d'autres qu'ils ne le sont pas du tout. Et... l'image qui me vient, c'est tu sais quoi? Puis je le donne souvent, l'image. L'image, c'est dans l'avion, lors de turbulences. Si tu ne mets pas le masque, je parle de dire masque à gaz, quand tu ne mets pas le max à oxygène, la première, tu as l'air égoïste quand tu le prends en premier, alors que tu as 3 petits bouts de chou à côté qui ont de la misère à respirer, mais tu ne pourras pas ensuite avoir la force de donner le masque à chacun pour les garder dans un air respirable. Et quand on est père aidant ou qu'on est en... Là, moi, je le sais, je suis en relation d'aide. Tu ne commences pas par te mettre ton propre masque à toi, c'est-à-dire te donner du temps, trouver des moments où tu peux déléguer. Parce que le problème, c'est que tu as l'impression que personne d'autre peut le faire à ta place. Donc, tous ceux qui ont peut-être donné un petit appel à tous très léger, ça a passé dans le beurre parce que tu penses que personne d'autre. « Ah, ça va être trop long de te leur montrer. Ah, de toute façon, personne ne s'y intéresse. Mon enfant ne veut pas voir personne d'autre que moi, etc. » Et là, il se crée une espèce de symbiose aussi où tu as l'impression que personne d'autre que toi peut le faire. Et à ce moment-là, ça devient comme une prison et que tu ne peux pas donner ce que tu as pu. Donc oui, tu vas répondre aux soins, mais tu vas le faire d'une façon...
Mécanique, automatique,
ça ne veut pas dire que tu ne l'aimes pas, tout ça, mais tu es en survie. Ouais. Je vais dire que tu es en survie, ouais. Tu comprends? Fait que c'est... Puis là, peut-être que cette personne-là n'a même plus la force de se demander qui elle est. C'est une grosse question, là, t'es qui? Même moi, là, je suis pas pire en forme, puis j'ai de la tête un peu, là, on va me prendre une coupe d'heure pour y réfléchir. Moi, là, c'est ce que j'y propose, puis je l'ai déjà proposé, qu'elle s'assoie, puis qu'elle prenne une feuille, puis qu'elle écrive... 30 plaisirs. Elle est folle, Paul, 30. Non. Tu vas voir, tu vas en écrire un en tremblant, tu vas dire, je ne sais plus c'est qui les autres. Mais ce que ça va faire, ça va t'obliger à remarquer tes manques. À remarquer, hey, moi, j'aimais ça aller manger avec une amie, je ne le fais plus. Hey, moi, j'aimais ça prendre des bains chauds, mais je ne le fais plus. Parce que j'ai toujours peur que Tipit, il se mette à crier ou qu'il se sente. À ce moment-là, ça va t'obliger à trouver des moyens pour atteindre l'objectif de vivre tes plaisirs. Parce que carburant, c'est du plaisir. Le plaisir, c'est souvent ce qui répond directement à tes besoins. Si j'ai
mais
besoin...
Yannick, on ne parle pas juste du plaisir sexuel. Je veux juste que tu restes avec nous dans la conversation.
Mm-hmm. Oui. Ça peut être sa feuille, pareil, Pascal. Ça se peut. Mais il ne faut pas que tu le marques 30 fois, cette affaire.
Yannick, alors le plaisir.
Non, j'ai compris le message. Je vais garder mes mains sur la table.
Mais juste ça. Ouais. Juste commencer par dire, je m'assois, puis qu'est-ce qui me fait plaisir? Puis je ne le sais plus. Qu'est-ce qui me faisait plaisir? Hey, à l'époque, puis tu as l'impression que ça fait 100 ans, à l'époque, là, juste aller marcher sans rien d'autre que moi-même, bien, peut-être que je peux, à ce moment-là, essayer de travailler à trouver une gardienne, trouver pour que je puisse, sans culpabilité. Et c'est là que le bas blesse, parce que tu te sens coupable dès que tu t'éloignes de cet enfant-là. Au cas où qu'il arriverait quelque chose, comment je pourrais le supporter? Au cas où quelqu'un d'autre n'aurait pas, tu sais... Fait qu'il faut passer l'étape de vivre un peu de malaise pour être capable de se mettre le masque.
Puis les gens qui pensent qu'ils n'ont pas le temps, parce que cette situation-là est particulière, puis d'après moi, ça a vraiment résonné auprès de l'auditrice qui nous a écrit. Mais mettons un Yannick Marceau là, qui a la garde une semaine sur deux de ses enfants, qui est débordé, qui a une job quand même qui demande beaucoup, c'est énergivore, qui quand sa co-animatrice dit « Toi, tu fais quoi pour le plaisir? Comment tu prends du temps pour toi? » Puis que la personne répond « J'en ai pas de temps pour moi, c'est pas compliqué, j'en ai pas. » C'est-tu un refus, justement, de travailler là-dessus?
Bien, tu sais, Pascal, la bonne nouvelle, c'est sûr, ta liste de plaisirs, c'est pas obligé d'être du temps tout seul avec toi. Peut-être que ton plaisir, c'est d'aller au cinéma avec ton conjoint, te mettre la main dans le popcorn, puis se beurrer les doigts.
Ça revient à quel degré aussi t'es tanné de vivre la vie que tu mènes là. Il y en a qui ont une vie extrêmement bien remplie, puis qui se disent, ils se posent pas la question de savoir s'ils sont heureux ou pas. Ils font juste way to go, buddy, puis on y va. Tu sais, Fred nous écrit, il dit, salut à la gang, je vous écoute présentement. C'est mon cas. J'ai 50 ans. J'ai aucune idée de qui je suis. J'ai aucune idée de ce que j'aime. J'ai pas vraiment de passion et je suis incapable de me définir en tant qu'être humain.
Hey, mais je pense pas qu'il est tout seul. J'ai vraiment l'impression que c'est pour beaucoup de personnes. Comment c'est rendu là, socialement, collectivement?
On va vite.
Ça va trop vite?
On va vite. On va tellement vite, puis on s'étourdit, puis tout est instantané. Donc, on ne prend plus le temps de redescendre au fond de soi. On est tellement habitué à l'instantanéité. Tu cherches un mot, tu es sur Google, tu écoutes un film. Oh, puis il est cute, sa blonde doit être belle aussi. Puis ça me fait chier, mais je vais aller voir.
On s'ennuie plus assez pour se poser des questions fondamentales.
On est dans l'instantanéité. Oui. Puis on est dans l'instantanéité. Tout vient tellement rapidement que lorsque je me pose une question, si la réponse ne vient pas tout de suite, j'ai l'impression qu'elle ne viendra jamais. On a de la misère à supporter le rien, tu as raison. On a de la misère à supporter le silence. On a de la misère à Puis ça, Yannick, il a l'air de rien, mais il avait déjà fait l'exercice. Il s'était assis un jour sur le divan avec rien.
Il a l'air de rien. Moi aussi, j'ai évoqué, là. J'adore.
Puis il a failli faire une dépression, là. Il a fait que 15 minutes. Puis il a dit, j'avais tout perdu mes points de repère. Mais tu te rappelles de ça, Yannick?
Oui.
Tu étais assis dans ton divan, rien faire, à réfléchir.
Pas de téléphone, rien, pas d'écran, rien.
Parce que moi, je reconnais que les écrans, pour moi, c'est une dope.
OK.
Puis, quand je m'en vais là-dessus, je pense plus à rien. Fait que je peux aller sur TikTok. Je commence par une fille qui fait de la samba. Ah. Puis ça finit par un gars que je connais pas, qui est dans la jungle, qui se construit une cabane.
Mais t'es encore là une heure
plus tard. Puis je regarde l'heure. Ça fait comme une heure et demie que je suis aux toilettes. Je me dis, il faudrait bien que je me lève chaque mois.
Que j'ai l'âge.
Fait que c'est une dope. C'est comme oui. Si j'embarque là-dessus, je pense plus à rien. Je fais juste me faire dicter quoi regarder par mon téléphone. J'aime ça. Je vais juste poser une question à mon ami ChatGPT, voir. ChatGPT, qui suis-je? Voilà, on va voir ce qu'il va dire.
Il est peut-être plus intelligent que nous trois réunis ensemble. mais aussi, pendant qu'il cherche le chat, là, qui suis-je? Parce qu'on se renouvelle tout le temps. On est, je veux dire,
après des relations, après des étapes de vie, après un changement d'emploi, un âge, un si, l'exercice, je pense, est essentiel et devrait être fait à chaque année.
Ben oui!
Puis... Chat GPT, qui suis-je? Il faudrait que je pèse dessus.
Un animal, mais un bonobo.
Mais on peut peut-être commencer par le « ici » maintenant.
Oh. Personne. Animateur de radio au style piquant et engagé, toujours prêt à défendre les valeurs de la famille, de l'esprit sportif et à s'attaquer à l'injustice.
Oh shit.
C'est bon.
Hey,
voyons, c'est bien bon.
C'est hot, hein? C'est mon chat GPT.
C'est toi qui as écrit ça?
Mais non, pas tout.
Tu as-tu suggéré des réponses?
Il me dit « Ah, je suis ravi que ça te plaise. On peut dire que tu laisses une marque dans le monde de la radio. »
Mais il n'a pas dit quel genre de marque.
Non,
mais là, tu as pris une chance. Tu ne sais pas ce qu'il allait dire. Hein. Tu sais qu'il aurait pu aller
dans... Il continuait-tu?
T'as-tu juste coupé ce qui était bon?
Tu sais, je pourrais redemander si ça marche.
Tu sais que ça pique notre curiosité. Je ne sais pas ce qu'il dit à nous autres. Hein.
C'est perturbant.
Chat GPT, qui suis-je? Va-tu marcher? Ah, c'est ça.
Donc, il est allé...
Voyons. Ça marche pas. OK.
Yannick,
il est plus capable de parler, il a tout dit. Je ne trouve plus rien d'autre. Il a beau chercher, il ne sait plus.
Il n'a pas répondu « cause perdue ».
Mais tu sais, au lieu d'aller, si c'est trop difficile d'aller dans l'existentialisme et de dire « je suis qui, je vaux quoi », juste te demander ici, maintenant, là, qu'est-ce qui me ferait du bien, là? Si je vous posais la question, là ne veut pas dire à minute près, mais... Dans votre vie actuellement, dormir. Qu'est-ce qui vous ferait du bien? Dormir.
Dormir.
Non, mais tu vois, la réponse a l'air cucu, mais elle n'est tellement pas. Ce que ça veut dire, c'est, bien, peut-être je peux revisiter ma vie pour organiser. Est-ce que je dors? Moi aussi, je ne dors pas, mais je fais de l'insomnie. Oui aussi. Oui,
mais là, je suis un peu sur le décalage horaire. Là.
Ah, OK, c'est circonstanciel.
Ouais. Mais j'aimerais bien ralentir un peu et dormir ces temps-ci, si on en a besoin.
Tu vois, si tu fais juste te fixer sur cet objectif-là, tu es capable d'avancer d'un pas. Si tu fais juste dire de quoi j'ai besoin là.
Mais c'est pas toujours facile. Comme là, la première affaire qui me vient en tête, c'est on a tellement d'engagement dans les prochains jours aux professionnels, à CSA, on avait un meeting très tôt ce matin et autres. C'est pas toujours atteignable non plus. Là.
Ouais.
Ben, on peut. L'absolu n'est pas atteignable, mais est-ce que je peux l'améliorer d'un peu? Mm-hmm. C'est parce que souvent, on est « ouais, mais je peux pas l'améliorer tant que ça. » Mais si je peux l'améliorer juste un peu, ça peut peut-être faire la différence.
Annuler un petit quelque chose.
Il y a peut-être ça. Mais tu sais, Paul, moi, j'ai fait beaucoup des voyages longtemps. Tu sais, comme Pascal l'a fait, elle est partie pendant 2 semaines tout seul.
Oui.
Puis on dirait que quand tu pars tout seul, au début, ça peut être une panique générale dans ta tête parce que tu te dis, attends un peu, là, je vais être vraiment tout seul pendant 14 jours. Moi, j'ai été tout seul pendant 6 semaines à un moment donné à parler à personne. Puis on dirait que ça m'a aidé à grandement progresser.
Ouais.
Tu sais, dans ma tête, là, qui je suis, qu'est-ce que j'aime, est-ce que je suis capable d'être sociable, est-ce que je suis capable d'être aimable?
Oui, Yannick, t'es capable.
Parce que
elle... J'ai pas répondu, tu vois.
mais tu te donnes pas le choix parce que t'es plus dans ton environnement, t'es plus dans ton appartement, t'es plus dans ta maison, t'es plus...
Dans ta routine.
Dans ton travail, c'est que tu ne te laisses pas le choix de penser à toi.
C'est que t'as plus tes mêmes points de repère.
Exact. Fait que c'est peut-être un peu comme tu nous as dit, t'sais, partir tout seul pendant des jours et des jours, si vous pouvez vous le permettre, je vous le souhaite, c'est un peu comme mettre justement son oxygène dans l'avion quand l'avion est en train de crasher.
Oui.
Puis après ça, tu reviens puis tu es capable de t'occuper des autres, ceux que tu aimes.
Et boucler la boucle sur certaines choses aussi.
Oui.
C'est important de le sceller, là.
Puis il y a des choses qui t'apparaissent évidentes, mais que tu ne peux plus accepter de ne plus voir quand tu te donnes ce temps-là. Puis Einstein a dit, parce que je ne veux pas m'approprier des choses qu'Einstein a dit, dans le désordre, on refait un nouvel ordre. Et quand on quitte nos points de repère, on est en désordre. Tu te retrouves tout seul dans un autre pays, une autre langue, une autre coutume, une autre... Puis t'as pas besoin d'aller loin, là, mais t'es en désordre et ça t'oblige à refaire un nouvel ordre.
Ouais.
Ça t'oblige à revisiter les choses parce que tes habitudes, tes routines, c'est plus là.
C'est ça. Puis, tu sais, un petit tour au Mexique pendant une semaine, là. T'es pogné sur le resort, là. T'es pogné là pendant une semaine. Ce que t'as à faire, c'est manger, dormir, boire, aller à piscine ou aller à la plage, te promener pendant des heures et des heures. Tu sais, au Mexique, on va se le dire, les plages sont assez longues, là, que ce soit d'un bord ou de l'autre. Les plages sont énormément longues. Fait que t'as juste ça à faire, partir penser à toi.
Sans engagement d'une heure. De genre, faut que je sois là à telle heure. Non, personne, tu pars, tu reviens quand tu tournes de bord, quand t'as envie de tourner de bord.
Tu vas déjeuner, tu vas être couché après. Il y a personne qui est là pour que je sois là après toi. Là.
Tu te réveilles à l'heure que tu veux, tu manges à l'heure que tu veux, tu manges ce que tu veux, vas où tu veux.
Puis je pense à la petite maman, là. Je reviens avec la petite maman qui a un spectre de l'autisme. Elle va dire, Paul, c'est impossible. Mais si, dans un idéal, le plus beau cadeau qu'on pourrait lui faire, c'est dire, quitte pour quelques jours, on s'occupe de ton grand. OK? Juste ça va l'aider à se retrouver dans une forêt où elle est perdue. Elle va être encore plus perdue le premier 24 heures, je vous avertis.
Elle va sentir pas bien, qu'elle pas bien, son enfant.
Oui. Mais passer ça, puis souvent, c'est la loi du 48 heures, fait que je dis tout le temps un peu plus que 48 heures, parce qu'après ça, ça commence à être pas pire. Juste ça, se retrouver toute seule avec elle-même, peut-être que ça fait je sais pas combien d'années qui n'a même pas pris un bain sans penser à elle. Je suis toujours avec le bain. Si tu parles, j'ai les mains gelées. Mais tu sais, juste faire le quotidien sans avoir toujours en arrière-pensée.
Puis plus que 48 heures, je trouve ça tellement important, cette donnée-là, par exemple, parce que tu vas tourner en rond au départ. Tu tournes tellement en rond, puis là, tu as le goût de revenir. Parce que ben, j'ai fait le tour. Tu sais, je l'ai fait le tour de la pièce 46 fois.
Oui.
Physiquement et mentalement.
Oui.
Mais tu n'es pas allé nécessairement en profondeur parce que tu es tout le temps en train de te dire, ben, qu'est-ce que je fais? Ah, c'est vrai, je suis seule. Ah, je prends du temps pour moi. Mais finalement, tu n'en prends pas parce que le 48 heures, je trouve que c'est une donnée super importante, t'sais. Il y a quelqu'un qui amène un autre point intéressant. Félix nous écrit, je suis plutôt solitaire, c'est parfois problématique en relation. C'est difficile de trouver l'équilibre là-dedans, entre répartir son temps entre les loisirs, le travail, la relation, le gym, puis son temps à lui, tu sais, en solitaire.
Bien, moi, je pense que la première chose pour être heureux dans la vie, c'est de s'assumer. C'est de ne pas vouloir être quelqu'un d'autre. Moi, là, je décroche pas d'authenticité. Ça veut pas dire que tu peux pas t'améliorer dans la vie puis être une saveur améliorée.
Ouais.
Mais si tu commences à être quelqu'un d'autre, tu ne pourras pas garder cette cadence-là. Fait que je pense que l'honnêteté envers soi-même est extrêmement importante. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas t'améliorer, là. Mais si tu t'engages avec quelqu'un et que tu as ce besoin de caverne, on va dire ça de même, ce besoin de caverne, je crois qu'il doit être nommé. Puis on doit trouver des alternatives pour être capable de bien vivre dans chacune des sphères de ma vie. Mais en me respectant, peut-être qu'au travail, moi, j'ai besoin d'aller prendre une marche tout seul le midi pour faire le plein de « je suis tout seul avec moi » pour être capable de supporter toutes les autres l'après-midi. Bien, supporter n'est pas un bon mot, là, mais je veux dire, tu comprends?
Vivre
en société. On n'a pas tout le même niveau de capacité à vivre avec les autres. Et ce n'est pas un problème. C'est une adaptation. C'est pas un problème parce que tu veux passer du temps toute seule. Il faut que tu t'adaptes. C'est sûr que si tu n'es plus capable d'aller pantoute en société, tu as peut-être un problème d'anxiété, là. Mais l'idée là-dedans, c'est pour avoir une vie équilibrée, c'est qu'il faut être capable d'être bien dans toutes les sphères de sa vie. Mais pour ça, il faut partir de l'honnêteté. Je suis qui, moi? Puis qu'est-ce que j'ai besoin de vivre? Puis comment je peux le vivre en étant en équilibre? En équilibre veut dire, bien, si dans toute ma vie, je passe juste 10 % en société, peut-être qu'il y a un déséquilibre. Mais peut-être que moi, mon ratio, c'est 65-35. Peut-être. Tu comprends? Mais l'idée, c'est d'être honnête. Puis ça, c'est difficile d'être honnête avec soi-même parce qu'on a le regard des autres. Mm-hmm. Et on a ce que la société nous dit de faire. On a ce que la bienséance nous dit de faire. Mais un jour ou l'autre, il faut avoir un meeting avec soi puis se dire, je suis qui, moi?
Il va y avoir des pertes quand même, là, relationnelles aussi. Puis, tu sais, je pense qu'on n'a plus beaucoup de temps là-dessus, mais il va falloir que tu fasses un ménage parce qu'il y a des gens que tu aimes profondément, mais qui n'accepteront pas nécessairement ton style de vie ou ta façon de prendre soin de toi maintenant, puis de t'assumer, puis qui vont partir, puis avoir des deuils là-dedans. Mais après, tu vas être mieux quand même, tu n'auras plus cette pression-là.
Je pense que tu as raison, mais ça va arriver pareil. C'est-à-dire, ça va arriver juste un peu plus tard, puis ça va faire plus mal. Parce que nécessairement, si tu es engagé avec quelqu'un, qui est très loin de toi et ne l'accepte pas puis n'arrive pas à des accommodements raisonnables, ça va péter pareil un jour, mais ça va faire plus mal puis ça va être plus tard.
Voilà. Paul Lévesque, spécialiste du comportement humain, éducatrice spécialisée, pour avoir accès à tes conférences ou encore si on veut te rencontrer, on te rejoint de quelle façon?
Ben écoute, tape Paul Lévesque, pas d'accent sur Google, tu vas apparaître à quelque part. Paul Lévesque à commercial.yahoo.ca, paullevesque.net, mais le monde n'a jamais le temps de taper ça, de toute façon. Puis Paul Lévesque, les cheveux roses sur Facebook, tu vas le trouver.
On tape Paul Lévesque, puis on voit son petit chien, c'est hot.
C'est vrai?
Oui.
Mon petit gros.
Vous êtes cute.
Ah ouais, je sais pas c'est laquelle.
Comment tu l'as appelé ton Golden?
Henri.
Il perd-tu du poil autant que le mien?
Beaucoup. Ces temps-ci, je passe à balayeuse 2 fois par jour.
Oui, même affaire. Puis on ramasse comme 3 chiens à terre.
Oui, bien, je viens de la passer, puis il fait juste s'escouer, puis je fais que c'est ça. Il doit être en train de faire son petit poil d'hiver, notre petit loup.
Tu penses?
Et qu'on est bien seul en pantoufle, en flanellette.
Même pas de chat.
Pas de chat. Pas de chien.
Seul.
Seul.
Ben ça, c'est s'assumer.
Avec ses grands cheveux dans le lavabo de la salle de bain. Ça dérange personne.
Puis pas de poils de barbe?
Pas de poils de barbe.
Ça dépend des matins.
Mais là, non, mais la personne ne peut pas se trimer dans le lavabo. Là, c'est pas une belle carte de visite.
Bon. Merci beaucoup, Paul.
Je vous embrasse. À bientôt.
On s'arrête, on vit. Marceau, le soir. Un peu stressé pour ce soir, Pascal. Ce soir, 18h, j'aurai le plaisir de co-animer en compagnie d'une grande dame de Leclerc Communication, Sylvie Goulet.
Oui, mais
qui
pour...
Qui est là depuis quoi? Quelques centaines d'années ici à la station?
150.
150,
c'est... Mais c'est pour une extraordinaire cause.
Oui, c'est les vœux de Noël. Les vœux de Noël de Leclerc Communication. On a donné depuis 13 ans... en fait, c'est la 13e année. On a donné plus de 600 000 $. Puis on a un objectif demain pour donner justement aux enfants malades qui sont à l'unité des soins palliatifs. On a un objectif demain de 75 000 $.
On va l'atteindre grâce à qui, tout le monde ici?
Oui, effectivement. Fait que ça va être une soirée spéciale sur les ondes de Boulevard. On va être coast to coast, comme disait l'autre. Week-end radio, puis Boulevard à 18h. C'est une émission spéciale Vœux de Noël. Puis demain, ben, c'est bel et bien la journée des vœux de Noël.
T'as-tu vu ce qu'ils ont posé en passant dans le corridor?
Non.
J'en parles-tu là ou je t'en parle dans Marceau le midi?
Ouais, ben c'est vrai, t'étais encore avec moi après.
Malheureusement. Nous, on switch l'émission à une autre, mais on pourrait juste continuer.
Bon.
Vas-tu survivre? T'as eu une pause de 2 semaines.
Ouais, c'est...
T'es-tu ennuyé un peu?
On va mettre un peu de musique.
Non?
Hein, on va mettre un peu de musique. Si je me sens ennuyé?
Ouais.
Oui, je peux dire ça, oui, on peut dire ça.
Les auditeurs avaient fait des paris.
Ils ont fait des paris?
Oui, sur qui allait s'ennuyer, quand,
mon inquiétude, c'était plus que tu te fasses voler un rein que d'autres choses en Europe, là, le monde est bizarre.
Non, j'ai pas de cicatrice.
OK, tu me raconteras ça après les cow-boys fringants. Les cow-boys fringants, c'est ce que vous entendez présentement entre 2 taxis sur Boulevard. On vient. Ils se sont embrassés tard dans la nuit.